je voudrais reprendre une réflexion qu'avait faite in illo tempore M. Ilya Ehrenburg, journaliste, écrivain, juif, soviétique, communiste, qui était le journaliste représentant la Pravda à Paris en 1940, et qui disait, quand les témoins meurent, les légendes naissent. Je dirais que même quand les témoins sont vivants, il y a des légendes. Et vous allez en écouter une. Voilà. J'ai 86 ans depuis quelques jours. Et jamais je n'ai eu l'honneur de prendre la parole devant un parterre de personnes aussi érudites, aussi connaisseuses et aussi qualifiées que vous l'êtes. Ne soyez donc pas surpris si par moment vous perceviez mon émotion ou mon stress. J'ai pas été à l'école, j'ai été jusqu'au niveau de votre première année de collège. J'ai pas été au-delà de cela. Je suis invité en ma qualité, mais est-ce une qualité? Alors que pour moi, il s'agit d'une tragédie. D'avoir été, il y a 75 ans, un malheureux petit enfant juif caché, qui a eu la chance, un signe d'être sauvé. Sauvé par de modestes paysans auvergnats, aujourd'hui juste parmi les nations, qui ignoraient sans doute qu'ils se mettaient et mettaient leur famille en danger de mort. Je reviendrai sur ce que les justes représentent pour moi et pour tous les enfants juifs cachés grâce à eux. Ma voix se casse, pardonnez-moi. Je suis aujourd'hui le vénérable patriarche d'une lignée d'encore deux enfants, huit petits-enfants qui s'étagent entre 39 et 20 ans, et déjà six arrière-petits-enfants de 15 ans à 2 mois. À propos de patriarche, François Englert, enfant caché de et en Belgique, né en novembre 1932, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles et prix Nobel de physique 2013, cita lors de son discours de réception à Stockholm ce proverbe mexicain: ils ont voulu nous enterrer, ils ignoraient que nous étions des graines. Avoir survécu aux nazis et être le patriarche d'une quatrième génération est la plus belle et la plus significative victoire sur Hitler, les nazis, leurs séides, leurs affidés, victoire partagée et sans cesse commémorée par tous les survivants de la Shoah, et aussi victoire sur tous ceux qui, aujourd'hui, sans pudeur, insidieusement ou ouvertement, en visant d'autres boucs émissaires, dans d'autres conditions et d'autres formes, au moyen d'autres arguments, se réclament d'eux. Je suis en effet un de ces rares enfants juifs sauvés. J'ignore combien le furent en France, mais en Belgique, environ 6500 d'entre eux qui avaient moins de 12 ans le 10 mai 1940. 25 267 juifs de Belgique sur une population de 50 à 55 000 âmes furent déportés vers les camps de la mort par 28 convois partis de la caserne d'Ossin à Malines. La caserne d'Ossin à Malines, c'est l'équivalent du camp de Drancy en France. Seuls revinrent de l'enfer nazi 1231 rescapés. Il faut savoir aussi que, comme les Juifs, les nazis traquèrent les Tziganes, en déportèrent de Belgique 351 et seulement 15 en revinrent. Depuis la fin officielle de la guerre, je ne me déplace, et c'est ce que je dis à tous les enfants que je rencontre, Je ne me déplace avec autour de moi les cendres. Et jusqu'à la fin de mes jours, en moi, le tragique souvenir du 1,5 million d'enfants juifs assassinés par les barbares nazis entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945. 1,5 million d'enfants parmi les 6 millions de juifs anéantis. D'abord à la main, au moyen de baïonnettes, de fusils, de mitrailleuses. Ensuite, de manière artisanale, par les gaz d'échappement refoulés dans l'arrière des camions spécialement adaptés. Et enfin, de façon tout à fait industrielle, dans les camps d'extermination massive que furent Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Majdanek, Treblinka, etc. Au moyen du gaz Zyklon fabriqué par IG Farben, firme existant toujours sous les noms de Bayer et BASF. Et à propos de ces 6 millions de juifs assassinés, j'emprunte à mon ami Thomas Gergely, philosophe, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles et actuellement directeur du cercle Martin Buber à Bruxelles, le sombre et tragique calcul statistique qu'il fait. S'il fallait réserver une minute complète de silence, c'est-à-dire 60 secondes, par juif assassiné, pendant cette période de 6 ans, nous devrions nous taire pendant 11 ans. Et si en outre, nous décidions de donner, sans nous arrêter jamais, un rang à chacun de ces juifs assassinés, en commençant par 1, 2, 3, aucun d'entre nous n'arriverait à 150 000. Il serait mort avant, la bouche asséchée et la langue arrachée. Outre cette digression, j'en fais ici une et j'en ferai d'autres, mais je fais maintenant un saut dans le temps. On m'a tout récemment demandé s'il était imaginable qu'une situation comme celle que j'ai vécue enfant, qui a vu anéantir 6 millions de Juifs, non pour ce qu'ils auraient fait, mais parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, des Juifs, si ça pouvait encore survenir, en avril 1994, j'aurais répondu immédiatement, c'est totalement impossible. J'avais tort, j'ai eu tort. Le 7 avril 1994, j'ai malheureusement dû me rendre à l'évidence que c'était possible, que les leçons de l'histoire n'avaient peut-être jamais été la préoccupation première des hommes. En moins de 100 jours, plus de 800 000 Tutsis seront assassinés au Rwanda, à la main, avec des machettes. Manière pire qu'au début de la barbarie nazie. Et ils ont été assassinés non pour ce qu'ils auraient pu faire, mais parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, Tutsi. Les Juifs ont traduit le mot grec holocauste par Shoah, catastrophe en hébreu. Raphaël Lemkin, juriste juif américain né en 1900, et selon certains, à Lemberg, en Austro-Hongrie, aujourd'hui Lviv, en Ukraine, mais selon Wikipédia, à Aziariska, en Biélorussie, a inventé, pour servir au procès de Nuremberg, le mot génocide ou assassinat d'une race, génos en grec, race, qui exprime l'horreur des camps d'extermination. J'ignore par quel mot Kinyarwanda. Les Rwandais ont traduit ou traduiront holocauste et s'ils inventeront dans leur langue l'équivalent de génocide. Je leur souhaite, car quand il n'y a pas de mot pour désigner une chose, cette chose n'existe pas. Je ne sais pas de qui est la citation. L'autre part, autre juriste juif américain né par coïncidence et selon les mêmes à Lemberg en 1897, mais pour Wikipédia à Jovkva en Ukraine, a quant à lui inventé le concept de crime contre l'humanité, concept utilisé pour la première fois à Nuremberg pour juger les 44 dignitaires nazis faits prisonniers. La barbarie ne meurt jamais, affirmait Simone Weil, et les horreurs de 1939-45 n'y ont hélas pas mis fin. Nouvelle digression. Ininterrompue depuis le 8 mai 1948, tous les massacres perpétrés n'étaient pas des génocides. 600 000 Indonésiens en 1966 parce qu'ils étaient communistes. 2 millions de Cambodgiens en 1974 parce que... Mais parce que quoi? Parce qu'ils n'étaient pas Khmer Rouge? Parce qu'ils ne vivaient pas dans les campagnes? Plus de 2 millions de Soudanais pendant la guerre civile entre le Nord et le Sud en 22 ans. Jusqu'à présent, 6, 7, 800, 900 000 Soudanais musulmans au Darfour. Et je ne comptabilise ni les millions et millions de victimes des guerres fratricides, ethniques, coloniales, territoriales, économiques, en Europe, en Afrique, en Asie. J'avais des dates, j'ai supprimé parce que je ne voulais pas en faire trop. Ni les millions d'autres assassinés dans les goulags, là au Gaï, ou autres camps équivalents existants par-ci, par-là dans le monde, et les malheureuses victimes de torture en Amérique centrale et du Sud. Je reviens à mon histoire. Jusqu'au 9 mai 1940, j'étais un petit enfant ordinaire, ordinaire comme n'importe quel petit enfant. Je trépignais, je piaffais d'impatience en attendant avec fébrilité que le beau gâteau d'anniversaire et les nombreux cadeaux que j'allais recevoir le 26 mai pour mes 7 ans. Le lendemain, 10 mai 1940, bien que n'étant pas devenu d'un coup de baguette magique un adulte, j'étais néanmoins et à jamais sorti de l'enfance. Nous habitions à Anvers où je suis né, deuxième plus grande ville de Belgique, à moins d'un kilomètre de la gare principale, Central Station. Très important nœud ferroviaire, immédiatement devenu au nord de la Belgique la cible principale de l'envahisseur. Sans comprendre, j'entendais le fracas des bombes et des tirs de DCA. Je voyais aussi par la fenêtre des soldats en uniforme vert de gris et portant des fusils, bien différents des soldats que je voyais habituellement aux parades. Dans la semaine même de l'invasion, ou celle qui suivit, maman et moi, avec mon frère qui avait 20 ans et ma sœur 18, eux, accompagnés de leurs copines et copains respectifs, avons pris dans un train de marchandises, en même temps, je le souligne, je le dis, toujours partout, en même temps que 2 millions de Belges. Nous avons pris la route, l'exode vers le sud de la France. Les exactions commises par les Boches en 14-18 étaient toujours vivaces dans la mémoire des plus de 35-40 ans. Je fais ici une nouvelle parenthèse et je me projette aujourd'hui, 79 ans plus tard. Écoutez, je fais exprès de parler belge et pas français, vous n'avez qu'à vous adapter. Alors que la France et les Français accueillirent en 1940, très généreusement, ces 2 millions de Belges fuyant les horreurs de la guerre, parmi lesquels ma famille et autres nombreux Juifs, je constate avec honte et une tristesse infinie que les pays de l'Union européenne, dont le mien, ne sont plus capables, ou plutôt refusent, d'accueillir quelques dizaines de milliers de pauvres gens jetés en exode sur les routes, fuyant la Syrie vers l'inconnu, éperdus de douleur, la peur au ventre, qualifiés par nos dirigeants du terme voulu injurieux de migrants, alors qu'ils ne pensent qu'à échapper à la guerre, au massacre, à la famine et autres malheurs, comme ma famille et moi quittions la Belgique en 1940. Revenons à mon histoire. Après plusieurs jours de voyage, 4 ou 5, je ne sais plus, ponctués de nombreux arrêts dus tant aux attaques en piqué des Stukas qui mitraillaient les civils pour susciter la peur et provoquer la panique, que pour cause de ravitaillement, nourriture des passagers, eau, charbon, etc. pour la locomotive, nous arrivâmes à Toulouse. Avant la traversée de la Loire, mais je n'ai su cela que beaucoup plus tard, des officiers de l'armée polonaise en formation, sous le commandement du général Anders, réquisitionnaient leurs compatriotes valides de 18 à 45 ans. Mon frère et mon futur beau-frère, tous les deux nés en juillet 1920, durent descendre du train. Nous étions polonais et ils étaient dans la mauvaise tranche d'âge. Vous le savez, mais il me paraît nécessaire de le rappeler, le général Anders et ses troupes, antisémites notoires, mais fervents patriotes, et comme tous les Polonais, farouchement anti-allemands, ont intégré dans l'armée britannique commandée par le maréchal Montgomery, courageusement combattu les nazis. C'est la seule allusion que je ferai aux Polonais. Le terminus du train était, je vous l'ai dit, Toulouse. Nous y arrivâmes à 4, ma sœur, maman, ma sœur, Léa, c'était l'amie de mon frère. Elle a été raflée plus tard en septembre 1942 à Anvers, déportée à Auschwitz et assassinée dès son arrivée. Et moi, Descartes attendait à la gare pour nous conduire vers les villages alentours. Notre car nous déposa à Grépiac, 25 km plus au sud, où une maisonnette du bourg fut mise à notre disposition par la municipalité. Je ne parlais alors que le flamand, et jusque maintenant, je n'ai aucun souvenir du comment j'ai pu, avec les enfants de l'école du village où ma sœur m'inscrivit immédiatement, franchir la barrière de la langue. Après quelques semaines, mon frère et mon futur beau-frère nous rejoignirent. Comment ils nous ont retravés ? C'est quelque chose que je porte en moi. Je ne leur ai jamais posé la question. Je le regrette, ils sont morts tous les deux aujourd'hui. Je ne le saurai jamais. Et ils avaient 20 ans, ils travaillaient dans les fermes où ils manquaient de bras. Et l'ordinaire s'est immédiatement amélioré. Le printemps et l'été 1940 furent extrêmement beaux et jusqu'à la fin de septembre, j'ai vécu à Grépiac un véritable temps de vacances. J'étais presque redevenu un enfant. Après la promulgation du premier décret sur le statut des Juifs en octobre 1940, les gendarmes de Vichy vinrent nous chercher, maman et moi, pour nous conduire au camp de Récibidou, d'où nous fûmes peu après, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, transférés vers celui de Rivesaltes, où étaient enfermés depuis un an ou plus les réfugiés républicains espagnols. Mon frère et Léa étaient repartis début septembre pour la Belgique pour rejoindre la résistance qui s'y organisait. Mon frère sera reconnu résistant armé à partir de novembre 1940 et devint, en 1943, le commandant en chef des partisans armés pour la région néerlandophone de Belgique, les partisans armés étant la section communiste de la résistance, affiliée au Front de l'indépendance, celui-ci regroupant toutes les organisations résistantes de Belgique. Ma sœur, enceinte, et mon futur beau-frère, occupé dans une ferme, ne furent pas raflés. Vichy n'arrêtant pas en 1940 les femmes enceintes, ni non plus les travailleurs indispensables aux travaux agricoles, fussent-ils juifs. Vichy s'est, dès août 1942, bien rattrapé, s'est acharné à rafler autant de juifs que possible, y compris les enfants, ce que les nazis alors n'exigeaient pas. Quels sont pour moi, avec mes yeux d'adulte, mes souvenirs de Rivesaltes? Le camp Joffre, dit camp de Rivesaltes, a été construit en 1935 pour y caserner un corps d'armée. Mais avant la guerre, il n'a jamais servi comme tel. C'était un ensemble de baraques en béton nu, couvertes de tôles avec des vasistas haut placés, et entre lesquels étaient érigés des sanitaires d'uniquement eau froide et des latrines. Ces baraques étaient garnies de chalets sur trois niveaux et double accès, pouvant abriter chacune une centaine de personnes. Dès 1937 ou 38, ce camp accueillera les réfugiés républicains espagnols fuyant les hordes franquistes, et il a été bien rentabilisé depuis, ayant successivement été enfermé. À partir des 40, les juifs non français, en ce compris les juifs étrangers installés en France depuis des décennies, puis à partir de 1944, les prisonniers de guerre allemands, ensuite les Felaga algériens entre 1954 et 1962, suivis des Harkis dès que ceux-ci durent fuir l'Algérie, ultérieurement, et paraît-il, jusqu'en 2007, d'autres prisonniers ou relégués y furent regroupés, mais les historiens présents ici rectifieront ou compléteront. Ce camp existe toujours, servant enfin en partie des casernes militaires et pour une autre partie constituant le mémorial de Rivesaltes inauguré en octobre 2017. Et qui faisais-je ? Rien. Pas de classe. Aucun adulte ne faisant cours. Les enfants laissés à l'abandon. Avec les autres, je jouais sur les graviers entre les baraques. Les plus petits d'entre nous dont je faisais partie étaient autorisés à jouer hors des limites du camp où il y avait un semblant de verdure, les gardiens sachant que nous retournerions vite chez papa-maman dès que nous aurions faim, qu'il pleuvrait ou qu'il ferait noir ou qu'il ferait froid. Parfois, les gardiens, peut-être des maris aimants, et de bons pères de famille qui soignaient bien leurs chiens, n'avaient ni honte ni complexe à exciter les uns contre les autres les adolescents espagnols et juifs pour qu'ils se battent. Ils applaudissaient, comptaient les coups, n'intervenant que si la bagarre provoquée devenait trop dangereuse. Nous, les enfants, nous devenions des voleurs. Tous les deux ou trois jours, un camion de ravitaillement non bâché apportait les victuailles des gardiens. Les enfants, petits et grands, couraient derrière, tentant de voler un fruit, un légume. Un jour, j'avais 8 ans, je fus rattrapé par un gardien et mis en prison. J'y restai quelques jours, dormant en même le béton, protégé du froid par une simple couverture de cheval. Un autre souvenir, les jours de camion, les gardiens nous poursuivaient armés de fouets que, pour nous faire peur, ils faisaient claquer. Un des enfants, courant moins vite, eut ainsi d'un coup de fouet la peau du genou entièrement arrachée, l'os mis à nu. J'ai de très nombreux autres souvenirs, toujours présents, mais qui, malgré les années, ne cessent de me hanter. Je ne vous en compterai que 2. Les séances de piqûres anti-diphtérie. C'était des injections faites de bas en haut, sous l'omoplate, par de soi-disant infirmiers au moyen d'aiguilles trop grosses. Première piqûre suivie de deux rappels à 15 jours d'intervalle. Cela se passait au plus fort de l'été et après chaque piqûre, j'ai eu de fortes fièvres pendant 2 semaines. Je suis resté au lit pendant 6 semaines. Deuxième souvenir extrêmement marquant parce qu'il aura eu des répercussions bien au-delà de la guerre, je vous en parle tout de suite, c'est la visite de la Croix-Rouge. Cette organisation vérifiait si les enfants étaient bien traités, mais au lieu d'arriver n'importe quand, elle annonça son passage 2 ou 3 semaines avant. La direction du camp put ainsi préparer un théâtre. Une baraque fut entièrement nettoyée et les murs chaulés. Une longue table installée sur des tréteaux, recouverte de nappes en papier blanc. Un vrai repas fut servi. Une soupe consistante du pain blanc, du poulet, des pommes de terre, des légumes verts et un dessert. Le tout à consommer impérativement sur place. Les plus grands conviés à ce festin incitèrent les enfants, malgré l'ordre formel des gardiens, à conserver le pain pour les parents. Ils suggérèrent de lancer le pain par les vasistas ou d'autres le récupéreraient. Mais les gardiens s'en sont vite aperçus et ont confisqué le pain. Évidemment, nous avons été immédiatement prévenus de ne plus le faire, chacun devant chercher sa propre solution. Moi, malin et futé, comme vous pouvez l'imaginer, vous me regardez et vous l'avez compris, j'ai immédiatement trouvé la solution. Je portais ce jour-là des pantalons de golf. Et mon idée géniale a été de mettre le morceau de pain pour maman dans une des jambes de mon pantalon. Hélas, je n'avais pas pensé qu'il y aurait fouille à la sortie de la baraque. Ce qui arriva, le pain fut confisqué, les enfants encore présents placés en demi-cercle devant moi et 2 gardiens, pour l'exemple, me giflèrent à tour de rôle et à tour de bras pendant un long, très long, infiniment long moment. 3 minutes, 20 minutes, je ne pourrais pas vous le dire. Un demi-siècle plus tard, ou plus, je racontais cette mémorable anecdote à des amis, tous anciens enfants juifs cachés, réunis un soir autour d'une table, comme d'anciens combattants que nous étions, quand l'un d'eux s'est écrié, la voix brisée, « Mais je m'en souviens, j'étais là. » J'ai assisté. Cet ami de mon âge, mais aujourd'hui décédé, nous avions fait connaissance quand nous avions 18 ans, avait lui aussi été avec ses parents enfermés à Rivesaltes. Et bien que nous le soucions ensemble depuis longtemps, que nous étions à Rivesaltes, nous n'en parlions jamais. Nous n'avions aucun souvenir l'un de l'autre, alors que nous avions 33 jours d'écart. Lui et moi, il est né en avril, je suis né en mai. Donc, nous n'avions pas de souvenirs, mais certainement que nous avons joué ensemble. Son père, qui était le facteur ou un des facteurs du camp, parce qu'il était polyglotte, il parlait 7 ou 8 langues, m'a dit un jour qu'il croyait bien se souvenir de maman, ce qui, d'après la description qu'il m'en avait faite, s'avéra exact, mais ne m'appartient. Ne m'apporta rien que je ne sais déjà. Après avoir passé environ 18 mois à Rivesaltes, au MEDA, en février 1942, ça c'est mon souvenir, à m'évader. En fait, je me suis évadé, à moins de 9 ans, je me suis évadé de Rivesaltes tout seul. Mais quand je dis que je me suis évadé tout seul de Rivesaltes, c'est pour ma gloriole que je dis ça. En réalité, j'ai été aidé dans mon évasion. Comment me suis-je évadé? Je vous ai expliqué tout à l'heure que ma sœur et mon beau-frère n'avaient pas été arrêtés en 40. En 1942, ils habitaient avec leur fille née en mars 1941 dans un village du Tarn-et-Garonne, Quélus. Pour l'anecdote, j'ajouterai qu'à Quélus, l'internationalement sculpteur connu Zadkine a été caché et a fait don à l'église de Quélus d'un Christ en bois extraordinairement beau, qui fait, je ne sais pas moi, 2,50 m de haut sur 1,50 m de large. C'est une merveille de sculpture. Et si vous alliez vous passer un jour à Quélus, allez dans l'église voir ce Christ qui est extraordinairement beau. Avec Lozé et maman, ils ont mis à profit le fait que les petits-enfants comme moi pouvaient jouer en dehors des limites du camp pour convenir qu'un tel jour, maman m'enverrait jouer hors des limites. Elle m'a dit que je devais faire très attention que les gardiens ne me voient pas m'éloigner, aller jusqu'à la gare, proche d'un kilomètre ou peut-être un peu plus, mais un lieu très accessible pour un enfant de 8 ans et demi, 9 ans, acheter un billet de train pour telle gare. J'avais reçu un billet de, enfin, je ne sais pas combien, 5 francs, 10 francs, je ne sais pas, pour acheter un billet jusqu'à la gare suivante où une dame blonde, et ça c'est dans mon souvenir, c'est extraordinaire, c'est une dame blonde, parce que dans ma famille et dans les gens que j'avais fréquentés jusque-là, tout le monde avait des cheveux noirs. Donc une dame blonde viendrait me demander si je m'appelais David et je devrais la suivre. Je vais aller vite. Pardon. Donc, je ne pensais pas que ça durait si longtemps. Donc, ainsi fut fait, j'ai été amené chez ma sœur. Je ne savais pas ce jour-là que je voyais ma maman pour la dernière fois, et je ne me souviens pas qu'elle m'ait embrassé plus fort ou plus longuement qu'à l'habitude, alors qu'elle se doutait bien qu'elle ne me verrait plus de longtemps, et naturellement, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle serait assassinée peu après. Je n'en ai eu vraiment conscience qu'aux alentours de la cinquantaine, je mourrais inconsolable de cela. En début de l'année 42, donc, j'arrivais chez ma sœur et mon beau-frère. Et puis, nous avons été, après, nous sommes partis pour la Creuse. Et en Creuse, nous avons été de village en village pour nous arrêter à Marsac. À Marsac, en août 1942, les rafles devenaient de plus en plus dangereuses. Je vais vite, hein. De plus en plus dangereuses, puisque le garde-churm là, m'a dit d'aller vite. De plus en plus vite. Ça devenait de plus en plus dangereux, et bien que nous étions protégés par la population, mon beau-frère et ma sœur décidèrent qu'il était temps de nous soustraire au radar de Vichy. Avec l'osée avec laquelle ils avaient pris contact, ils nous ont fait placer par l'osée ma nièce qui avait 17 ou 18 mois et moi dans des lieux sûrs, et c'était en Auvergne, près de Vertolaye, près d'Ambert. Ma sœur et mon beau-frère ont plongé dans le maquis parce qu'il était temps, le temps de la guerre et du combat armé était arrivé. Mon beau-frère a été le libérateur en second dans le cadre des FTP, MOI et le groupe Carmagnol, sous les ordres du commandant Roger Landilly, un des libérateurs de la ville de Lyon. Ma sœur et mon beau-frère ont reçu la médaille d'or de la ville de Lyon. Nous avons donc vécu en Auvergne. Et à La Champ, il y avait deux fermes. Moi, j'étais dans l'une, c'était exploité par la sœur et son mari. Ma nièce était dans l'autre, c'était le frère et sa femme. Marius et Marie Pilière d'un côté, et Jean et Eugénie Rollion de l'autre. Alors là, je vais quand même prendre mon temps. Marius et Marie Pilière m'ont immédiatement considéré comme le petit dernier qu'ils auraient peut-être voulu avoir. Et tout en me traitant comme les paysans d'alentour traitaient leurs propres enfants, je reconnais que j'étais choyé. C'était la plus belle période de mon enfance. Pourquoi ont-ils accepté de m'accueillir et me cacher chez eux alors qu'ils devaient connaître les risques encourus? Je n'ai pas la réponse. Cette question vaut aussi pour les Rollion qui recueillirent ma nièce. Ce n'était pas pour l'argent. Lozy avait peu de moyens. Ce n'était pas non plus par conviction politique. Ils avaient des opinions, probablement comme les paysans catholiques d'avant la guerre et comme ceux d'aujourd'hui sans doute, de droite très modérée. Mais plus j'y réfléchis et plus je suis persuadé que c'était de belles et bonnes personnes, comme peu de leurs contemporains, simples et dignes, avec de la morale et une colonne vertébrale, et qui, soutenus par leurs croyances et leurs pratiques religieuses, n'acceptaient ni l'intolérance, ni l'ignominieuse chasse aux juifs, tant par les affidés vichysois que par leurs maîtres nazis, et qui, Alors, mon premier combat en Belgique, comme celui de tous les enfants cachés, est de raviver partout où ils ont été cachés et sauvés, comme je l'ai fait à Vertolaye pour les familles Pilière et Rollion le 8 mai 2000, le souvenir de l'héroïsme tranquille et de la dignité des justes parmi les nations. Je ne sais pas ce qui se fait ici, en France, ni ce qui se fera. Mais en Belgique, l'association L'Enfant Caché, que j'ai eu un temps l'honneur de présider, remue depuis de nombreuses années ciel et terre pour qu'une selle gravée des 1733 justes recensés à ce jour et honorés par Yad Vashem, pour qu'une stèle gravée de ce nom soit soit installé au mémorial de la déportation, mémorial érigé dans une commune de Bruxelles qui s'appelle Anderlecht, où sont inscrits déjà les noms de 24 036 juifs assassinés, déportés de Belgique, et sur une seconde stèle, les noms de 243 résistants juifs lâchement abattus par les nazis ou leurs gestapistes. Mon second et plus important des combats que je mène, parce que j'ai été victime de la Shoah, est et reste, comme pour tous les autres enfants juifs cachés, un rare témoin. Et je regrette que trop peu nombreux sont les survivants s'engageant dans ce devoir, qui est de porter auprès d'enfants et d'adolescents, dans les écoles, les mouvements de jeunesse, à l'occasion de toutes les manifestations et commémoration possible, ce que fut la Shoah, en quoi ce fut une horreur, quel traumatisme j'ai dû surmonter, évacuer pour devenir l'homme qui s'exprime aujourd'hui devant vous. Je leur explique la genèse de l'hitlérisme, l'absurdité, l'ancienneté, la persistance de l'antisémitisme, sans remonter à Hammam, grand vizir du roi perse Assuérus, pourquoi le racisme, la xénophobie et toutes les intolérances doivent être en permanence combattues. Et je mets les jeunes en garde contre les attaques que subit la démocratie dans laquelle ils vivent. Je les invite à éviter autant que faire se peut les nouvelles tragédies en pratiquant la tolérance, l'empathie, la solidarité et la fraternité. Je devais témoigner hier au Centre culturel Jules Isaac, mais la préparation des examens a empêché les étudiants de venir. Je suis un passeur de mémoire. Il n'y a pas de mois où en Belgique et de temps en temps en France, ça m'est arrivé, de témoigner dans les écoles et les collèges. Je fais des enfants qui m'écoutent mes héritiers en leur disant qu'ils pourront et qu'ils devront contester les négationnistes partout et toujours parce qu'ils auront vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles quelqu'un qui a vécu la Shoah. Nous sommes en 2019, 20% de ce siècle derrière nous, le monde va mal. Partout, des ultra-nationalistes, des néo-fascistes relèvent la tête. Et écoutez ce que disait Albert Camus, « Quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais pas pour prendre de ses nouvelles. » Malgré les remparts existants, beaucoup de ponts se construisent partout, en Europe, dans le monde, pour permettre aux jeunes de quitter leur clocher, de connaître les jeunes d'ailleurs, de rencontrer l'étranger, d'apprendre à le connaître, à le comprendre, à le respecter. Je vais terminer. Je vais terminer ici, ou presque. Non, allez, je termine. J'ai une confiance aujourd'hui dans l'intelligentsia surgie d'Erwin de 1945 et qui est constituée par des scientifiques, des médecins, de toutes disciplines, des architectes, des historiens, des écrivains, des philosophes. Elle rebâtira cette intelligentsia pierre par pierre. La culture, la science, la beauté transnationale en Europe, dans le monde, grâce auquel régnera un jour que je ne connaîtrai pas la paix entre les nations et les hommes. Je m'arrête ici. Le texte complet sera dans les annales. Dans les annales, je le donne à Jules.